nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Amidou Sall, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour un autre volet de Focus consacré au poète président Léopold Sédar Senghor. Alors, nous venons de brosser un premier portrait de Senghor dans les émissions précédentes, à travers son enfance, ses études, sa vie expliquée également aux plus petits grâce à l'existence d'un ouvrage pour enfants qui retrace sa vie en quelques pages. Et avec vous, Amidou Sall, nous allons nous intéresser cette fois-ci plus particulièrement au poète Senghor. Alors, quels sont les thèmes évoqués? Quelles sont ses inspirations? Quel sens donner à ses poèmes? Vous allez pouvoir nous donner quelques détails, puisque pour Henri Senghor, qui est le neveu de Léopold Sédar Senghor, vous êtes en quelque sorte le fils spirituel du poète. Alors, même si vous vous dites justement pas spécialiste de la poésie de Senghor, vous pouvez en tout cas nous donner votre sentiment, votre subjectivité sur les thèmes que nous allons pouvoir évoquer. Et vous pourrez nous faire une lecture d'un poème à la fin de cette émission qui s'intitule
Élégie de minuit.
Élégie de minuit, donc dans le recueil nocturne. Avant toute chose, je vais quand même vous présenter Amidou Sall, parce que depuis le début, je parle de Léopold Sédar Senghor, je ne parle pas de vous, alors que c'est vous qui allez nous en parler. Vous êtes chargé de mission à l'OIF, qui est l'Organisation Internationale de la Francophonie, dont le secrétaire général est Abdou Diouf. Alors, le premier thème que nous allons pouvoir évoquer avec vous, Amidou Sall, est tout d'abord le royaume d'enfance, un terme déjà qui lui est cher, le royaume d'enfance, et un thème qui lui est cher également. Comment ça se traduit dans les poèmes de Léopold Sédar Senghor? En quels termes il en parle?
Un auteur bien de chez vous, quand je dis bien de chez vous, je peux aller au-delà de l'Hexagone et parler de l'Europe. Un auteur allemand, si ma mémoire est bonne, Hermann Hesse, nous dit qu'on est toujours du pays de son enfance. Senghor, c'est une trajectoire qui va de la brume des villages perdus de son Afrique natale jusqu'aux berges de cette Seine qui était très chère à son cœur. On est toujours du pays de son enfance, et l'enfance, pour Senghor, c'est ce merveilleux royaume.
Il a une idéalisation de l'enfance.
Il a une idéalisation de l'enfance, mais également du fait de sa trajectoire, puisqu'il a été très tôt arraché à ce royaume. Il en a gardé un souvenir profond, très tenace. Et c'est ce souvenir, ces années d'enfance, passées là, dans la féerie de ces villages, dans la magie de cette culture serrère, qu'il va bâtir une puissante œuvre poétique. C'est en cela que la poésie de Senghor n'est pas une poésie gratuite. Elle s'ancre dans une réalité, dans un vécu.
Dans un vécu. Il a besoin de souffrir pour pouvoir parler de thèmes qui lui sont chers.
Absolument, absolument. Souffrir parce qu'il est habité par la nostalgie. Et je crois que d'ailleurs, si on va à l'étymologie grecque de nostalgie, il y a la douleur. Il y a la douleur, il y a le besoin de reconquérir ou de retourner vers quelque chose. Et c'est pas étonnant d'ailleurs que ce mot de nostalgie soit très présent chez des peuples marins tels que les Grecs, n'est-ce pas? On retrouve beaucoup le thème de la nostalgie dans l'Odyssée, par exemple. Donc Senghor a quitté ce royaume, il est allé vers la grande ville et ensuite il est allé en France, mais il est resté accroché à tout ce qu'il avait vécu parce que c'est là que sa personnalité s'est formée.
Et pourtant, son enfance n'a pas été toute rose. Il parle de prince, de princesse. Pour autant, il a eu quand même une enfance, on ne va pas dire difficile, mais comme vous le dites si bien, arraché très tôt de l'enfance. Il ne va pas voir son père très souvent. Il aura des relations très difficiles avec son père. On ne peut pas dire quand même que ce soit un conte de fées.
Il appartient à l'ethnie serrère. Cette ethnie serrère est articulée autour du matriarcat. Donc, ses aînés, son lignage, l'organisation de la société serrère est telle que l'enfant est déjà préparé à ne pas tout le temps être avec son père, mais plutôt avec son oncle. Et quand on lit sa poésie, on sent toute la place qu'occupe Tocowali. Tocowali qui est son oncle, le frère de sa mère, qui s'est chargé de son éducation, qui l'a initié, parce que Senghor est un garçon qu'on a initié très tôt. Et je pense que c'est la puissance de cette initiation qui est restée et qui l'a accompagné tout au long de son cheminement.
Alors justement, vous parlez de société matriarcale. Dans le royaume de son enfance, il fait référence à la douceur maternelle, les contes des nourrices, et puis également le monde des esprits que l'on évoque lors des veillées. Tout ça qui donne une ambiance particulière dans cette société matriarcale.
C'est déjà un formidable matériau pour quand même un poète. Parce que plus tard, quand il va se mettre à écrire, c'est cette force d'émerveillement, c'est cette capacité d'émerveillement qui va nous offrir au travers d'une belle langue, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est toujours dans une langue française de rêve que Senghor nous a fait accéder et nous a offert sa puissante capacité d'émerveillement, mais cet émerveillement s'ancre encore une fois de plus dans son réel, dans la réalité de son royaume d'enfance. C'est aussi toute la culture africaine. Tout à l'heure, bon, nous parlerons de rythme et ça, donc on parlera de la civilisation de l'oralité. Bon, et Senghor vivait dans une grande famille, une villa au sens romain du terme, où on se retrouve plusieurs. Parce qu'en Afrique, la famille est un creuset de valeurs consensuelles entre différentes générations. Donc, on y vit avec le père, la mère, les cousins, les oncles, les grands-parents, etc. Donc, c'est beaucoup de monde. C'est un apprentissage de la vie. C'est une éducation au respect et aux règles de ces sociétés, le respect de du droit d'aînesse, la hiérarchie, etc. Bon, et ça, je crois que c'est ça qui a marqué Senghor et il l'a emporté avec lui parce que il faut se dire que Senghor a quitté le royaume d'enfance très tôt. Il y est resté peut-être bon maximum 10 ans. Il est parti très tôt, mais ce souvenir a été tellement vivace et présent que ça l'a accompagné tout au long de ses 95 années.
Alors, un autre souvenir du royaume de son enfance, c'est, je vais l'évoquer très rapidement, c'est le monde des esprits. Alors, il écrit à ce sujet, donc sur son royaume d'enfance. C'était un royaume d'innocence et de bonheur. Et concernant donc le monde des esprits, il n'y avait pas de frontière entre les morts et les vivants, entre la réalité et la fiction, entre le présent, le passé et l'avenir. Absolument. Ce qui est aussi la magie de l'enfance.
Toute la magie de l'enfance de Senghor est là. Et c'est au travers de ces images qu'il évoque que l'on sent également la présence de cet oncle qui le guidait et qui lui « Toi qui me fais écouter l'inaudible ». C'est déjà toute une magie, n'est-ce pas? Et puis, Senghor accompagne, parce qu'il est quand même dans une société où la religion chrétienne est en train de s'installer, mais elle s'installe sur un puissant fond païen, n'est-ce pas? Il y a donc la cohabitation de la religion et du paganisme, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit que son animisme n'est pas un vin tout nouveau, parce que c'est profondément ancré en lui. Tout à l'heure, nous parlerons probablement de religion. Bon, bien qu'il soit un catholique très fervent, etc., il y a eu toujours la présence de cette religion traditionnelle qui a cohabité à côté de cette religion. Et c'est encore ça, Senghor, parce que Senghor, c'est un homme de la cohabitation, c'est l'homme de l'enracinement et de l'ouverture, c'est l'homme aussi d'une identité multiple.
Alors, peut-être qu'on va pouvoir justement parler du métissage, même si ça, ce n'est pas du métissage, mais en tout cas, c'est déjà mêler une religion à d'autres religions plus païennes. Le métissage qui est également très présent. Alors, le mot métissage peut paraître péjoratif. Certains préfèrent le mot tissage, qui est peut-être plus poétique et valorisant.
Le mot tissage, c'est bien, il est très beau, mais bon, je pense aussi que le métissage tel que vécu, défini, conçu par Senghor est également une réalité profonde dans sa vie et dans son œuvre. Le thème du métissage, je crois que c'est Senghor, il y a divers niveaux dans le métissage. On est au royaume d'enfance, il y a cohabitation de plusieurs réalités. Donc, tout à l'heure, on a dit l'animisme, cette religion traditionnelle et la religion catholique. Donc, rencontre de deux mondes qui s'harmonisent, qui se complètent. Ensuite, la notion de métissage prendra une valeur plus profonde avec l'entrée du jeune en adolescence, quand il ira à l'école, à Dakar, parce que bon, il va y rencontrer des condisciples venus d'autres horizons, parce que jusqu'à présent, il n'était que dans son royaume serrère, dans sa petite côte. Mais quand il est allé dans la grande ville, ça a été un grand bouleversement.
Dakar,
la capitale,
oui.
Ça a été un grand bouleversement, parce que bon, c'est subitement un horizon qui s'est ouvert. Il a rencontré des gens différents de lui, des Européens, etc. Et puis ensuite, quand il est venu en Occident, notamment en France, mais... Et je pense qu'aussi il y a une autre étape importante et décisive, c'est celle de l'après-guerre. Parce que n'oublions pas que Senghor est entré dans cette tourmente.
Bien sûr, il était mobilisé.
Mobilisé, il était en captivité. La captivité a été un
prisonnier
moment...
Prisonnier de la Charité sur Loire.
Prisonnier de la Charité sur Loire. Et je crois que pendant cette captivité, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup médité. Et je pense qu'une bonne partie de l'œuvre et de la réflexion de Senghor nous viennent de là. De cette profonde réflexion, quand dans la tourmente, il a mesuré le drame de cette tourmente pour ensuite réfléchir sur ses affres, n'est-ce pas? Parce que là aussi, nous étions dans le royaume d'enfance, il ne faut pas oublier que Senghor est né, bon, ce siècle, le siècle précédent avait 6 ans quand il naquit sur les bords de ce fleuve du Sine. Il a été l'enfant d'un siècle brutal. Parce qu'il a connu la Première Guerre mondiale pendant qu'il était à l'école primaire, ensuite la Seconde Guerre, la décolonisation, l'apartheid, les totalitarismes. Plusieurs grands bouleversements. Donc, quelque part, Senghor a été l'enfant d'un siècle brutal. Il a accompagné de son regard de poète, d'intellectuel, il a suivi le cheminement de ce siècle, qu'il a contribué d'ailleurs à façonner aussi, tant au plan intellectuel qu'au plan politique. Donc c'est là aussi qu'on retrouve sa double vie, ce regard extraordinaire sous deux angles qui permet d'embrasser une totalité et en même temps aussi d'avoir des instruments et un outillage intellectuel qui lui permet d'avoir du recul et de réfléchir par rapport à tout ça.
En fait, c'est un caméléon. Il a cette capacité de se fondre dans une culture ou dans une autre et de se l'approprier. Concernant le métissage culturel, il écrit « Il s'agit d'apprivoiser des mots avec les mots français, avec ce cœur qui m'est venu du Sénégal. »
Absolument. Il s'agit d'apprivoiser les mots M-O-T-S.
Oui.
Voilà, il s'agit d'apprivoiser les mots. Mais en même temps, à travers ces mots, il décrit aussi son mal intérieur. Parce que Senghor a été aussi un homme déchiré, un homme bouleversé. Bon, l'écartèlement n'a pas atteint un niveau d'extrême angoisse existentielle au point qu'il se perdit lui-même. Non, il a été aussi un homme d'équilibre, mais il n'en demeure pas moins qu'il a connu les deux versants de cette dure réalité. Donc, il a eu des mots M-O-T-S pour dire ces mots M-A-U-X dans... ces magnifiques mots de la langue française qu'il a tant aimé jusqu'à son dernier souffle.
Il y a également le métissage biologique. Il fait très souvent référence aux grandes civilisations métisses. Il cite l'Égypte sémito-africaine, l'Inde négro-arienne et la France formée de Romains et de Francs. Il insiste là-dessus sur le fait que ces Sénégalais, ces Africains qui... eux-mêmes pourraient renier leur culture et leur dire « Non, regardez, nous sommes issus d'une grande civilisation, la civilisation égyptienne. »
J'appartiens à une génération dont l'enfance a été bercée par les discours de Senghor. C'était bien avant la télévision, élève à l'école primaire, c'était la civilisation de la radio. La radio et Senghor, ces discours étaient de grands moments pour nous. Parce que nous soyons en train de jouer ou de faire autre chose, parce que bon, généralement c'est le soir qu'il s'exprimait à la radio. Lorsque nous entendions donc sur les ondes, le chef de l'État vous parle, tout devait s'arrêter. Et moi j'ai encore le souvenir d'un petit garçon qui prenait un petit bout de papier et un crayon et collait son oreille au transistor. Pourquoi ? Parce que le discours de Senghor était un grenier de mots savants pour moi. J'étais fasciné par la puissance et la musicalité de la langue française. Et ça, c'est pas étonnant, on en parlera tout à l'heure, parce que j'appartiens à une civilisation de l'oralité, donc le son a son importance. Et je notais pêle-mêle des mots qui me paraissaient avoir une musicalité extraordinaire. Et le lendemain, à l'école, en rédaction, il me fallait à chaque fois utiliser mes mots.
Vous essayez de les replacer.
J'essayais de les replacer. Et il m'est arrivé très souvent d'ailleurs de passer complètement à côté. Et j'ai le souvenir de ce mot, une nuit maghrébine. Je ne savais même pas comment écrire maghrébine, je l'avais fait de façon phonétique. Bon, le H, je l'avais avalé, il n'était pas là. Et le lendemain, je me suis arrangé pour caser ce mot, mais ce n'était pas du tout bon. Mais j'étais fier et très heureux d'avoir récolté une bonne graine que j'ai essayé de semer, même si, bon, je suis passé à côté. Mais cet exercice m'a beaucoup aidé et plus tard, j'ai pu vraiment enrichir mon vocabulaire et puis m'amuser à faire un bon usage des mots savants.
On marque une courte pause et on retrouve tout de suite Amidou Sall dans quelques instants. Merci.
Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture ou encore les ouvrages déposés sur le bureau de l'Académie des sciences morales et politiques lors des séances. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Retour à notre focus en compagnie d'Amidou Sall. Vous êtes chargée de mission donc à l'Organisation internationale de la francophonie. Avec vous, donc, nous sommes penchés sur un thème bien particulier, propre à Léopold Sédar Senghor, qui est le métissage. Je vous avais coupé dans la lancée, mais vous allez pouvoir reprendre votre lancée, le culture métisse.
Voilà, la culture métisse, oui, le thème très présent dans la vie et dans l'œuvre de Léopold Sédar Senghor. Et Senghor nous a enseigné très tôt que c'est aux latitudes de la Méditerranée et tout autour de ce bassin que sont nées et que se sont développées quelques-unes des plus grandes civilisations humaines. Et il nous citait la Grèce, l'Égypte, Sumer. Et dans son approche, dans sa conception culturelle, parce que d'abord lui-même, de par sa formation, c'est quelqu'un qui est helléniste, n'est-ce pas ?
Professeur de lettres.
Professeur de lettres.
De latin grec.
Donc, il connaît le rôle extrêmement important qu'a joué la civilisation gréco-latine dans cette matrice, parce que, bon, il aimait bien nous rappeler que c'est aux latitudes des villes de l'Italie du Sud, entre la mer Égée et l'autre rive, que sur ce petit bout de terre qu'est la Grèce, c'est là que pratiquement l'essentiel de ce qui est devenu la culture occidentale, c'est là la matrice. Il nous parler beaucoup du métissage parce que là, cette Méditerranée qui aujourd'hui bon, peut apparaître comme un trait physique de séparation entre deux mondes, hier c'était un formidable pont entre deux mondes, entre deux grandes cultures, la culture égyptienne et la culture grecque. Et nombre de savants grecs ont traversé cette Méditerranée pour aller séjourner en Égypte, revenir en Grèce, riche de beaucoup de connaissances qui vont être livrés à la postérité, donc à l'humanité. Donc, rencontre, échange, brassage fécondant. C'est ça le métissage. Et chez Senghor, on le sent dans son écriture également. Dans son écriture parce que sa poésie a souvent cette facture. Me vient à l'esprit, puisqu'on parle de Méditerranée, ce poème dans les élégies de Carthage. Qu'est-ce que c'est élégie de Carthage ? Senghor est aussi homme politique, chef d'État. Il réfléchit beaucoup à l'adaptation aux réalités africaines de la théorie politique du socialisme. Et il mène une réflexion avec ses amis tunisiens. Et à l'occasion d'un congrès en 1975 en Tunisie, en pleine nuit, il est réveillé par quelque chose. Et dans le poème, je ne peux pas le dire de mémoire, mais il dit « Est-ce toi donc, amie visiteuse, qui bouge dans ma poitrine ?» Déjà, amie visiteuse, c'est la muse. Parce que bon, comme vous le savez, dans la culture gréco-latine, la muse, c'est... il y a 9 muses qui sont issues de la déesse de la mémoire et de Zeus. Mnemosyne et Zeus, accouplés pendant 9 nuits, qui donnent 9 muses, chacune exerçant son truc dans un domaine. Donc, cette muse qui visite Saint-Gor, et il se réveille, et il sent affluer en lui toute sa formation classique. Mais il est aussi à Carthage. Carthage, c'est quoi? C'est Didon. Didon, c'est cette princesse partie de Tyr sur la côte méditerranéenne et qui est venue fonder sur la côte africaine la ville de Carthage. Et Didon est très présente dans le livre 4 de l'Énéide, qui est l'un des plus beaux poèmes d'amour, n'est-ce pas? Et donc Saint-Gor pense à la fondatrice de cette cité, c'est Didon. Mais en même temps, il pense à tous ces grands héros que sont Hannibal, le général carthaginois, qui a incarné la résistance de l'Afrique face à la puissance romaine. Bon, en même temps aussi, c'est les Numides, c'est Jugurtha, il pense à tout. Donc, voici un homme qui est là pour travailler et qui subitement est saisi par quelque chose, qui se réveille, qui met de côté tout et qui écrit un poème. Mais un poème dans lequel on sent tout son métissage, parce que c'est l'Africain, défenseur des valeurs de civilisation africaine, mais en même temps qui sait que son continent a rencontré un autre monde, qu'il a fécondé, et lui-même est le fruit d'une école occidentale qui lui a donné des instruments pour dire la légende véridique de son continent, de sa race, et ainsi de suite. Voilà tout Saint-Gor. Tout le métissage, c'est pas quelque chose de gratuit, et toute son œuvre est traversée par ça.
Mais ce qui est incroyable quand vous parlez, c'est qu'en fait, il va accumuler des connaissances et va pouvoir s'ouvrir à n'importe quelle autre civilisation, ce qui n'est pas donné aujourd'hui à tout le monde.
Exactement,
encore aujourd'hui,
exactement.
On aurait plutôt tendance sur nous-mêmes.
Absolument. Se refermer sur nous-mêmes.
C'est un exercice quand même que d'aller savoir, d'aller connaître les autres civilisations, puisque même dans notre enseignement, on nous apprend déjà à nous centrer sur notre propre histoire et après à nous de faire les démarches, lorsque nous sommes adultes, d'aller chercher ailleurs comment ça se passe.
C'est sur ce point précis. Et c'est vous qui l'évoquez, que moi je trouve et que je suis très fier de ma culture africaine, de ma civilisation, de la négritude, parce que la négritude c'est l'ensemble de valeurs d'une civilisation. Je suis sénégalais et j'appartiens à l'ethnie Poulard. Je suis, le terme utilisé par les colons quand ils sont arrivés, c'est tout couleur. Donc on m'a classé tout couleur, c'est-à-dire qu'ils nous appellent. Comment nous ne nous appelons pas, parce que moi, je ne m'appelle pas tout couleur, je suis Poulard. Je suis donc un Hal Poulard. Hal, c'est le verbe parler. Donc, c'est la communauté de ceux qui parlent le Poulard. Donc, c'est les Peuls, etc. Bon, qu'on retrouve un peu presque partout en Afrique de l'Ouest. Notre éducation est une éducation de tolérance et d'ouverture. Parce que j'ai été élevé dans les valeurs de civilisation de mon milieu, de mon monde, pour fixer en moi un certain nombre d'éléments qui sont des éléments fondateurs de mon identité, de ma condition.
De votre enracinement.
De mon enracinement. Mais en même temps, quand on dit enracinement, il faut nécessairement une ouverture. C'est l'arbre, c'est la notion de l'arbre. Les racines sont à l'intérieur pour que nous tenions, mais il nous faut ouvrir cette sorte de frondaison pour humer le monde. Et c'est là que se forge cette identité multiple. Donc, enraciné dans mes valeurs, j'ai appris très tôt à voir le différent, à écouter l'autre, à m'ouvrir à l'autre. Et c'est pour ça que, par le biais de l'école, d'abord musulman, éducation traditionnelle, l'enseignement du Coran, l'exercice de la récitation du Coran. Donc, c'est une école. C'est ce que Cheikh Hamidou Kane, dans l'aventure ambiguë, appelle le foyer ardent. Ensuite, à l'âge de 7 ans, pour certains et pour d'autres plus tard, Saint-Gor, par exemple, est allé à l'école autour de 9 ans, on rencontre une autre culture, une autre langue, parce que derrière chaque langue, il y a une culture. Donc, en apprenant nos premiers mots de français, nous apprenons aussi les premiers éléments d'une culture différente de la nôtre. Donc, voici que cohabitent déjà en nous l'un et l'autre. Donc, nous sommes dans le monde du multiple. Et je pense que c'est une admirable préparation qui, plus tard, en avançant, va aider. Ensuite, arrivé au lycée, c'est l'exercice des langues étrangères. Parce que bon, là déjà, tout jeune, nous avons notre poulard, le peul. Mm-hmm. Ensuite, comme nous vivons dans une société où pratiquement tout le monde parle le Wolof, donc on a cette langue Wolof. Ensuite, il y a le français. Moi, mon souvenir, j'arrive au lycée, j'apprends l'anglais. Mais il y a aussi le latin, parce que je décline la rose. Nous avançons, ensuite il y a le grec. Bon, chez d'autres, d'espagnol, etc.
Vous avez une richesse de connaissances de langue.
Absolument. Donc il y a une richesse et une ouverture, parce que derrière chaque mot différent de ma langue, il y a une culture et une civilisation. Et ce sont ces cultures et civilisations qui, très tôt, au moment où la personnalité se forge et se forme, que l'enfant sait qu'il est un et multiple. Il sait qu'il doit être et rester ce qu'il est, mais il doit s'ouvrir. Et c'est là, puisque nous parlons de Senghor, l'occasion de parler de celui qui fut son plus que frère, toute sa vie, qui est Aimé Césaire. Et Aimé Césaire nous dit qu'il y a deux manières de se perdre. Soit par dilution dans l'universel, ou par repli sur soi. Entre les deux, il y a une voie médiane. Et Senghor nous a éduqués à tenir le fil de cette voie médiane. Et c'est ça que nous devons à cet homme, qui fut un parfait éducateur. Il était éducateur, bon, mais en même temps, homme d'État, il a tenu ce petit pays comme le professeur tient sa classe.
Alors, Ami Doussal, vous avez des formidables talents d'orateur, on reste pendu à vos lèvres. Alors, justement, peut-être pourrions-nous évoquer un autre thème, qui est justement le thème de l'oralité et de la rythmique dans les poèmes de Senghor, et une rythmique qui lui est propre, qui est aussi en rapport avec la culture sérère, Wolof, puisqu'il était sérère au départ, il a parlé Wolof également. Comment ça se traduit également, cette rythmique spécifique aux Africains?
Senghor, on l'a dit tout à l'heure, est né dans la culture sérère. Donc, tout jeune, il a habité la langue sérère, qui est une langue proche de ma langue maternelle. Je ne parle pas le sérère, mais nous avons un fond lexical commun très important. Senghor habite donc ce monde du sérère, qui est donc le monde de l'oralité. J'ai dit monde de l'oralité, donc musicalité de la langue. Quelque chose d'extraordinaire se joue là, à travers la musique de la langue. Et c'est pour ça d'ailleurs que quelquefois, en discutant avec mes amis français, parlant de poésie, je leur dis que une langue, quelle qu'elle soit, avant d'être l'affaire des grammairiens et des linguistes, est d'abord l'affaire des poètes. Parce que c'est dans la poésie, dans la magie de la poésie, que s'opère le charme. Surtout quand une langue vous est étrangère, quelque chose vous accroche, vous prend. Et moi, je dis que je garderai toujours ce merveilleux souvenir de mes récitations quand il me fallait réciter le Cid ou Horace ou les grands textes de Hugo ou Peggy, n'est-ce pas, ou les fables de La Fontaine, n'est-ce pas, toute cette poésie classique, cette versification, poésie rimée, les rimes suivies, rimes croisées, etc. Quelque chose de fondamental s'est opéré là. Et je dis que donc, nous, appartenant à une civilisation de l'oralité, toute notre puissance est donc dans ce dire, dans ce parler. Et la force de Senghor, c'est celle d'avoir, et la force de Senghor est dans le fait d'avoir fait cohabiter en lui, dans sa façon de penser, d'écrire, donc de s'exprimer et de nommer les choses. Parce que le poète, c'est celui qui nomme. Sa force, en nommant les choses, c'est de les nommer également de façon, comme qui dirait, métisse. Parce que il utilise une langue française parfaitement maîtrisée, mais pour dire une réalité qui lui vient de son enfance, donc du pays sérère, de son royaume d'enfance. Donc là, il y a rencontre entre deux choses. Une réalité qui, elle-même, parce qu'on la nomme, crée la chose, crée le mot. Mais pour être transcrite a besoin de passer par une autre langue. Et là, il y a un exercice extraordinaire et c'est en ça que Senghor est un véritable magicien. Parce que Senghor, d'abord, quand on regarde son œuvre, on sait que cet homme est habité par une grande musique intérieure. C'est un homme habité par une grande
musique. Qu'est-ce que vous appelez la musique intérieure ?
La musique intérieure, c'est que Senghor a emmagasiné en lui des trésors fabuleux faits d'images, faits de rythmes, faits de scènes vécues. Par exemple, quand il relate dans sa poésie les visites du roi du Sine, Kumbandofen, à son père, tout le rituel, le protocole, etc. C'était Senghor, à l'époque, il pense après à la féerie du protocole à la cour de 14, en se disant qu'à Versailles, ou là juste à côté, à la demeure des rois de France, les choses devaient se passer de la même manière, tout était ordonné, organisé, etc. Donc, voici des images qui sont restées en lui, et qui, avant qu'il ne puisse écrire, se sont quand même déroulées et répétées en lui. Et c'est ça qui crée cette musique-là. Et je crois que c'est l'accumulation de toutes ces choses qui lui ont permis, le jour où il a eu l'instrument, de pouvoir extérioriser toutes ces choses. Et c'est pour ça que j'ai dit, Senghor est un homme qui a toujours été habité par une grande musique intérieure. Et bon, tout à l'heure, bon, peut-être aurons-nous l'occasion de parler des femmes, etc. Parce que Senghor aussi a beaucoup chanté la femme.
Monsieur.
Bon, et c'est là aussi que l'on retrouve toute sa musique intérieure.
Alors, sur la rythmique, nous, c'est vrai qu'on aime bien caler les choses, alexandrin, voilà. Et là, pour le coup, dans les poèmes africains, on ne compte plus vraiment les syllabes.
Ouais. Vous savez, Senghor est quand même le pur produit de votre école. Je dis que c'est une trajectoire merveilleuse, un enfant qui naît dans la brousse, qui parle son serrère. Et il dit d'ailleurs lui-même ses premiers mots de français, chocolat, confiture, qui crée une belle musicalité chez lui, en même temps, peut-être l'appétit du petit broussard. Il entre à l'école à un âge assez avancé, mais élève studieux, il fit tant et si bien que, ici sur les bords de Seine, lycée Louis-le-Grand Sorbonne, le voici agrégé, mais pas agrégé de n'importe quelle discipline. Il a choisi la grammaire. La grammaire, parce que une langue, toute la, si je puis m'exprimer ainsi, toute la logistique d'une langue est dans la grammaire. Et Senghor a choisi cette voie pour maîtriser véritablement cette langue. Parce que il ne faut pas oublier que notre rapport à la langue française est un rapport quand même assez complexe. C'est une langue qui nous a été imposée et souvent on nous l'a imposée en essayant de gommer nos propres langues. Donc dès le départ, un rapport violent.
Mmh. Fallait que ça se superpose.
Absolument.
Non, pas de la
Mais de ce côté contraignant, je dirais même violent, nous sommes allés vers cette langue puisqu'il fallait faire avec et nous sommes sortis de ce rapport distant, de ce rapport fait de violence pour entrer dans un rapport de fascination. La musicalité de votre langue, vos alexandrins, nous ont conquis et charmés. Ensuite, nous avons habité cette langue. Et c'est la raison pour laquelle, bon, moi qui travaille en francophonie, j'ai dit que pendant longtemps, nous fûmes locataires de cette langue. C'était une langue d'emprunt. Aujourd'hui, je le dis, je suis ici sous le toit de l'Académie française, sous la coupole, gardienne de cette langue, si je puis m'exprimer ainsi. Mais je dis qu'aujourd'hui, je suis passé de mon statut de locataire à un statut de propriétaire. Je suis dans la propriété. Cette langue, nous l'aimons. Léopold Sédar Senghor, par les séances du jeudi, ici, sous ce toit, a apporté le souffle de son oralité, le souffle des langues africaines, l'imagination des langues africaines, pour enrichir cette langue qui est devenue la sienne. Et je pense que Tout est là dans ce rapport que nous avons avec cette langue. Mais Senghor, donc, quand il a fini son agrégation, il s'est lancé dans le projet de soutenir sa thèse. Et Senghor travaillait sur, a fait de grandes recherches profondes sur les langues africaines, notamment sur les classes nominales dans les langues sérère, wolof et peul. Et il a travaillé sur les chants gymniques. Et il a recueilli énormément de poèmes issus de cette société de l'oralité. Donc tout de suite, la notion du rythme. Et il aimait bien d'ailleurs lui réciter ce fameux poème sur un rythme binaire, yagana, 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 etc. Bon, mais en même temps, il est habité aussi, parce que Senghor, c'est quelqu'un qui, je dis comme Césaire, a une profonde connaissance de la poésie française, de la prosodie française, la poésie classique, il la connaît. Bon. Mais en même temps, il a choisi d'être cohérent avec lui, parce que n'oublions pas que c'est l'homme de la synthèse, de la symbiose, du dialogue, du métissage. Il utilise cette science qu'il maîtrise parfaitement et une langue française bien domptée, bien maîtrisée, pour dire une réalité. Et cette réalité, du point de vue de son rythme, du point de vue de, je veux dire essentiellement du point de vue de son rythme, est assez différent du rythme de l'alexandrin, etc. Et il trouve une merveilleuse synthèse entre les deux.
Il arrivait à faire accumuler, aussi bien à faire cohabiter plutôt Louise Labbé avec les poèmes
absolument. C'est ça la force aussi de Senghor. Voilà.
On marque une courte pause, Amidou Sall. On se retrouve tout de suite après pour la fin de notre émission. À tout de suite.
Qui porte l'habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
Qui est invité en habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
Qui s'exprime en habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
En habit vert ?
Le portrait ?
Le parcours ?
La rencontre ?
Des académiciens des 5 académies.
En direct ou en médiathèque ?
Sur Canal Académie.
Suite et fin de notre émission Focus en compagnie d'Amidou Sall. Amidou Sall, je le redis pour nos auditeurs qui pourraient nous avoir rejoints, que vous êtes chargé de mission à l'Organisation internationale de la francophonie et que vous êtes nommé par Henri Senghor, fils spirituel de Léopold Sédar Senghor. Et donc, vous êtes ici pour nous parler des poèmes de Senghor, les thèmes qui sont évoqués, leur signification. Alors, dans cette dernière partie de notre émission, nous allons pouvoir parler de trois choses différentes. Le thème de la religion, qui est présent effectivement dans les poèmes de Senghor, mais également la femme et l'amour qui va avec. Et puis, nous pourrons terminer par la lecture d'une partie d'un extrait de l'Élégie de minuit, extrait de Nocturne, une lecture que vous souhaitez nous faire, puisqu'il évoque un autre thème qui est la mort, et en l'occurrence sa propre mort. Mais alors, tout d'abord, évoquons la religion, si vous le voulez bien. Léopold Sédar Senghor est catholique dans un pays à 98-99%, je ne sais pas, musulman.
Oui, Senghor est un homme, c'est en ça que cet homme est fascinant, parce que Senghor appartient à une double minorité. Il est sérère, ethnie minoritaire au Sénégal, il est catholique.
C'est ce qu'on avait pu dire au début, en fait. Hein. Il mêle à la fois animisme, rite animiste, et puis... Voilà.
Donc, magie du puissant ancrage dans le pays sérère, donc au royaume d'enfance, religion traditionnelle. Parce que Senghor, c'est également le sanctuaire, c'est le bois sacré, c'est le pangol, etc. C'est l'animisme. Mais en même temps, confié aux pères qui vont se charger de son éducation, le voici également dans la voie du catéchisme. Mmh. Deux réalités qu'il va faire encore cohabiter en lui. Parce que s'il devait se détourner totalement de sa religion traditionnelle, quelque part, il considérait que c'est un appauvrissement. Et d'ailleurs, cela est tellement profond en lui que plus tard, homme d'État, il a particulièrement suivi ces questions et essayait même d'enrichir la religion catholique par des apports locaux. Et me vient à l'esprit les moines bénédictins d'un village juste au sortir de Dakar, les moines de Kermassar. musulman, moi, je suis fasciné par la messe des moines de Kermassar, une messe aux couleurs africaines, ou au son des hautes choras, une messe est dite en latin. L'Afrique,
c'est un beau mélange.
Le latin, et tout ça pour une louange à Dieu. C'est extraordinaire. Senghor, c'était ça aussi sa force. Parce que ce fond animiste est resté très puissant en lui. Mais là, je vous évoque un souvenir que moi-même, j'ai vécu. Parce que bon, ayant vécu dans l'intimité de Senghor, je l'ai vu également prier. Et je sais qu'il disait sa messe en latin. Et dans le merveilleux latin de Saint Jérôme, le latin de la Vulgate, tous
ça,
les dimanches.
Ça, c'était un élément que nous n'avions pas.
Ah
effectivement,
oui.
Nous ne le savions
tous
pas.
Les dimanches, Senghor disait sa messe en latin. Et comme j'ai dit, dans le latin de la Vulgate, celui de Saint Jérôme, qui est un parfait latin pour ceux
et qui la connaissent. Religion est un.
Et la religion était très présente en lui, parce qu'elle est présente en lui dans son vécu. Et elle est tellement présente en lui qu'elle ressort aussi dans son écriture.
Elle ressurgit dans ses textes.
Avant de venir à votre émission, j'étais en train de ranger ma bibliothèque et je suis tombé sur un vieux recueil qu'il m'avait offert parce que c'est non sans émotion que j'ai relu la dédicace parce qu'il faisait allusion dans la dédicace à celui qui était mon
votre ami,
son fils Philippe Senghor. Cette dédicace date de 82, donc peut-être un an après le décès de Philippe. Et c'était les élégies majeures. Mais cette édition, justement, ne contenait pas l'élégie pour Philippe, qui viendra dans une édition une année après. Et dans la dédicace, il me dit, les élégies majeures qui sont mes poèmes préférés. Et dans les élégies majeures, Élégie de Carthage, j'ai dit tout à l'heure, on sent la présence de Rome, de toute sa formation classique. Élégie pour Georges Pompidou, il pleure un ami plus que frère, et en pleurant l'ami, son rempart, le rempart de sa douleur, c'est la religion. Et on sent cette présence dans l'écriture de Senghor. Ensuite, il y a l'élégie pour Martin Luther King, l'élégie pour la reine de Saba. Toutes ces élégies, on retrouve le catholique, le fervent, le croyant, qui a une profonde connaissance de la Bible, des textes sacrés, et qui le sort tout au long de son écriture. C'est ça, Senghor et la religion. Et je dis que ça va encore beaucoup plus loin, parce que bon, ayant été dans son intimité, il lui arrivait souvent, moi, de me, je ne dirais pas sermonner, mais pratiquement de me rappeler à mes obligations religieuses, en me disant que non, tu es musulman, moi je suis catholique, quand on est ensemble, il faut que tu penses aussi à t'acquitter de tes obligations, il faut t'acquitter de tes prières, il faut faire ton carême, parce que bon, et ça. Et c'était toujours de très longues explications sur la nécessité d'avoir la foi, parce que c'est un rempart, c'est le refuge, c'est en cas d'épreuve, etc. Mais en même temps aussi, nos grandes joies, on les exprime à travers une sorte de reconnaissance au Seigneur, etc. Et tout. Donc, moi, pendant très longtemps, j'ai vu Senghor sur cet axe, n'est-ce pas, s'occupant de sa religion, demandant aux autres également de s'occuper de la leur pour être dans une sorte de fraternité abrahamique réunie tous autour des Écritures saintes.
Il s'était créé une forteresse, finalement, c'était un rempart.
Absolument, absolument. Et il le dit même, bon, à l'occasion, n'eût été la religion, il n'aurait jamais pu résister à cette catastrophe qu'a été la mort de son fils dernier, ouais, Philippe.
Alors, un rempart peut-être qui est pour eux pour une autre chose.
Absolument.
L'amour et les femmes, heureusement, c'est un sujet qui lui est cher.
Absolument.
En tout cas, qui revient très souvent, la femme qui est évoquée, qui sert finalement de support pour évoquer aussi bien l'Afrique, cette terre nourricière, également la femme en tant que telle.
Le thème de l'amour traverse toute l'œuvre de Senghor.
Il a une conception courtoise de l'amour.
Absolument, une conception courtoise.
Un peu surannée, mais finalement qui a son charme.
Absolument, comme un chevalier du... Je ne sais pas, il faut le situer entre 12e, 15e, 17e siècle. Bon, avec, et Senghor, c'est ça aussi. Parce que n'oublions pas que Senghor est un homme d'une grande élégance, un homme très courtois, un homme poli, qui se lève pour saluer le plus humble de ses concitoyens, de ceux qui l'approchent, etc. Un homme fascinant sur ce plan-là. Et donc, cette courtoisie qui est sienne, courtoisie qu'il pousse jusque dans la ponctualité par rapport à ses rendez-vous, etc. et tout, un homme extraordinaire, d'une exquise courtoisie. Un homme pareil ne pouvait pas ne pas être également très attentif à la femme. Bon, et Senghor a chanté la femme. Il a chanté cette femme noire à travers laquelle il faut voir aussi le symbole de son Afrique tant aimée. Senghor a beaucoup chanté sa femme, Colette. Et je pense que...
Il lui a même dédié un poème sur le fait qu'elle vieillisse et qu'elle ait du mal à accepter sa vieillesse.
C'est ça. Très beau poème. Et d'ailleurs, parce que Senghor, pris par les affaires, très souvent, il arrivait que sa femme aille visiter sa mère en Normandie, le laissant lui à Dakar, parce que pris par le truc, ça c'était dans les périodes avant les vacances d'été. Mais toute absence de Colette, ou disons, exprimons autrement, les absences de Colette nous ont offert de très beaux poèmes. Si vous visitez l'œuvre de Senghor, vous verrez que toute absence a été une raison pour une partition. Senghor a beaucoup créé parce que la femme n'était là. Où es-tu, ma blonde? Où es-tu? Chez ta mère, etc. Princesse de belle... Mais vraiment de très belles évocations de sa femme, de l'amour. Et même quand il chante des choses, ou bien même telles que les villes, que ce soit New York, ou il le fait sous le sceau de l'amour. Il le fait sous le sceau de l'amour, et ça donne des textes d'une finesse et d'une sensualité extraordinaire.
Il personnifie chaque chose.
Et c'est ça, toute la puissance et tout le rapport de Senghor à l'amour et à la femme. C'est un homme qui, sa vie durant, a chanté et apprécié cette sorte de... Excusez le mot, mais cette sorte de saveur si plénière qui est en la femme, et tout dans son œuvre le montre. Et Senghor il y a un poème dédié à Chant pour Jackie Thompson, stade qui s'appelle Stade Ibamar Diop. Il y avait une rencontre d'athlétisme entre la sélection africaine et la sélection américaine. Il est là, il préside la séance, à côté de lui, son premier ministre de l'époque, qui se trouve être l'actuel secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, M. Abdou Diouf. Départ du 100 mètres dames. Senghor regarde la ligne de départ et il est frappé par une fille américaine, blanche, qui avait des tresses à l'africaine. Une sorte de gazelle très élancée, très belle. Et puis, quelque chose se crée et il dit à son voisin, donc son premier ministre, j'ai le sentiment que cette femme qui ressemble à une peule, qui a des tresses, va être première à l'arrivée.
Va gagner.
Et elle a gagné. On est dimanche. Le lendemain, les affaires de la République reprennent. À 16h, il devait recevoir son premier ministre pour une séance hebdomadaire de travail. Et lorsque ce dernier est entré dans son bureau, il s'est levé, il l'a salué, il lui a donné une page. C'était un poème qu'il a écrit dans la soirée, inspiré par cette dame. Et ça a donné un très beau poème qui est dans son œuvre, qui s'appelle Chant pour Jackie Thompson. Voilà Senghor aussi dans Voilà le poète.
Alors justement, vous parliez de poème, peut-être que nous allons pouvoir terminer par la lecture d'un poème. Un poème qui vous inspire, qui vous touche en tout cas, qui s'intitule Élégie de minuit. Vous allez nous en
le poème, ce poème me touche beaucoup parce que je trouve tout Senghor et tout mon Senghor dans ce poème. Il me touche parce que la perte de Senghor reste encore quelque chose de très dur pour moi, parce que c'est un homme que j'ai connu, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a enrichi, éduqué, et qui, parti, ça a été une grande perte pour le Sénégal, pour l'Afrique, et je pense pour l'humanité aussi, parce que c'est un... Il était un immense pont entre culture et peuple. Et c'était un homme aussi de grande sagesse. Et homme de grande sagesse, c'est ça, je crois, qui lui a permis, après être resté pendant très longtemps en politique, d'être au fait des honneurs et de la gloire politique, et subitement de se lever pour tirer sa révérence. Et je pense que c'est dans cette sagesse d'intellectuel profondément civilisé qu'il est allé tirer son nunc dimittis domine servum tum. Nous parlons de Senghor, de temps en temps nous pouvons nous offrir quelques citations latines. Nunc dimittis domine servum tum, Seigneur, ma mission est accomplie, je me retire. À partir de ce moment-là, il s'est retiré pour se restituer au seul royaume véritablement sien, le royaume de la poésie. Et sur le versant de l'âge, il sentait aussi la fin, parce que tout a une fin.
Il vivait avec.
Il vivait avec, mais il savait également que c'est une porte qui absolument devait s'ouvrir et il fallait attendre sereinement. Sur le versant de l'âge, dans le grand âge, il avait déposé sa lyre au pied de sa blonde normande et il attendait. Et il a écrit ceci. Seigneur de la lumière et des ténèbres, toi, Seigneur du cosmos, fais que je repose sous joie l'ombreuse, que je renaisse au royaume d'enfance, bruissant de rêves, que je sois le berger de ma bergère par les tanes de Gilor où fleurissent les morts. Que j'éclate en applaudissements quand entre dans le cercle Teningyare et Tchagumyare. Que je danse comme l'athlète au tam-tam des morts de l'année. Ce n'est qu'une prière. Vous savez ma patience paysanne. Viendra la paix, viendra l'ange de l'aube, viendra le chant des oiseaux induits, viendra la lumière de l'aube. Je dormirai du sommeil de la mort qui nourrit le poète. Ô toi qui donnes la maladie du sommeil au nouveau-né, à Maron la poétesse, à Kochebarma le juste. Je dormirai à l'aube ma poupée rose dans les bras, ma poupée aux yeux verts et or à la langue si merveilleuse, la langue même du poème. Et je pense que ce texte est dur, mais il est très beau. Quand il dit « Seigneur de la lumière et des ténèbres, toi Seigneur du cosmos, fais que je repose sous joie l'ombreuse. » C'est le retour au royaume d'enfance tant évoqué. Mais quand il dit « Seigneur, vous savez ma patience paysanne », il attend. Viendra le jour, viendra l'ange de l'aube, parce que c'est inévitable. Mais quand viendra l'ange de l'aube, je dormirai ma poupée rose dans les bras. La poupée rose, c'est Colette, c'est sa femme.
Colette Hubert.
Ma poupée aux yeux verts et or, à la langue si merveilleuse. La langue même du poème. Encore, ultime hommage à cette langue française. Le retour au pays natal, l'hommage à la langue. Parce que c'est sur votre terre, tant aimée. Cette terre qu'il a tant aimée jusqu'à ce que son cœur se rompisse, c'est ici que ça s'est passé. Au premier jour de l'hiver de 2001.
Merci Amidou
Sall. Honneur à Senghor.
Merci Amidou Sall de nous avoir accordé une heure pendant laquelle vous avez pu nous expliquer ces différents thèmes que l'on retrouve dans les textes de Senghor. Et merci d'avoir terminé par ce magnifique poème qui effectivement résume en quelques phrases à lui tout seul, l'œuvre même de Senghor et cette reconnaissance qu'il a aussi bien pour sa terre natale que pour sa terre d'adoption, si je puis dire.
Absolument.
Merci Amidou Sall.
Merci à vous aussi.
Que vous êtes chargé de mission à l'Organisation internationale de la francophonie et que vous avez un site internet à l'Organisation internationale de la francophonie auquel j'invite les internautes de Canal Académie à aller faire un tour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.
Merci.
Au revoir.